à Dieu. Ce matin, je veux partager avec vous un texte qu'on connaît très, très, très bien et que probablement à maintes reprises, on a partagé dans la parole. Et c'est, je vais vous parler d'un homme, bien sûr, plutôt l'histoire dont cet homme-là fait partie. Et le titre que j'ai donné ce matin, « L'Éternel voit, l'Éternel sait, nous on croit, nous on fait ». Et on a besoin de réaliser l'Éternel voit. Dieu voit plus loin que tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Dieu voit beaucoup plus loin. Et dans cette histoire, bien sûr, je vais parler de Gédéon ce matin. Dans cette histoire, on découvre comment Dieu est celui qui voyait beaucoup plus loin que Gédéon. Que non seulement Dieu voyait à travers tout ça, mais Dieu savait certaines choses. Le Seigneur connaissait certaines choses. Et comment Gédéon et les 300 personnes ont dû être de ceux qui devaient croire et de ceux qui devaient faire ce que Dieu leur demandait de croire et de faire. Et souvent, la portion de Dieu, on a besoin de le savoir, on a besoin d'y vivre dans cette dimension-là, de savoir que Dieu, alléluia, voit les choses et que Dieu sait les choses. Je dis souvent que nous, on pense, que nous, on imagine les choses. Moi, on peut à travers les choses avoir des impressions d'eux, on pense que, mais Dieu ne pense pas, il sait les choses. Et dans ce texte de Gédéon, dans Juges chapitre 6, ensemble, lorsqu'on lit, on ne lira pas tout le texte de ce texte-là, vous pourrez le faire à la maison, Juges chapitre 6 et le verset, chapitre 6, verset 1 jusqu'au chapitre 7, et jusqu'à peut-être aller à la fin du chapitre 7 pour réaliser et comprendre toute la mission de ce qui prend place dans la vie de cet homme et de tout ce peuple-là. Mais le texte nous donne de voir que les enfants d'Israël, déjà le verset 1 nous dit du chapitre 6, que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alors, lorsque Dieu va se révéler à Gédéon, ça fait maintenant 7 ans qu'ils sont sous une domination de Madian. Et Madian, c'était celui qui vraiment avait la main puissante, ça dit le verset 2, « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissèrent en Israël ni vives, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Alors, ça nous est démontré, alléluia, comment cet homme-là était puissant, mais non seulement puissant dans une capacité de bataille, mais avait une puissance dans une domination d'écraser le peuple de Dieu à ce moment-là. Et il y avait vraiment une domination sur cette nation-là, sur le peuple de Dieu, et ça les amenait à être découragés, à être brisés. Et dans le texte, alors qu'on se retrouve là, à partir du verset 12, il y a une dimension dont Dieu va se révéler à Gédéon, où Dieu va parler à Gédéon. Et c'est comme j'ai dit, ça fait 7 ans que l'Israël sont tous sous cette domination. Ils se cachaient dans les cavernes. Ils vivent vraiment la terreur à l'intérieur de leur vie. Et Dieu, dans le verset 12, va se révéler, ça dit l'ange de l'Éternel, lui apparut et lui dit, « Éternel est avec toi, vaillant héros. » Il y a une dimension que Dieu s'adresse ou adresse à Gédéon. Et alors que l'on pense dans ce texte-là, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Dieu ne sait non seulement de ce qui va arriver dans la délivrance, mais Dieu connaît bien Gédéon. Dieu sait qui est cet homme. Dieu sait qui est cet homme. Alléluia. Dieu a vu Gédéon. Non seulement il voyait la domination de Madian et tout ça, mais Dieu connaissait et Dieu voyait bien, alléluia, Gédéon. Non seulement les situations, mais aussi les hommes et les personnes. J'aimerais nous encourager ce matin que Dieu ne voit pas ou que Dieu ne connaît pas seulement et ne voit pas seulement les situations dans nos vies, mais il sait qui on est, nous. Dieu voit qui on est, nous. Dieu connaissait ce peuple-là. Et alors qu'il s'adresse, il voit dans cet homme, bien sûr, un héros qui était là, bien sûr, pour Gédéon. Ce n'était pas sa conception de ce qu'il avait de lui-même. Il était en train de se cacher, de battre le froment pour le mettre à l'écart. Puis pourtant, cette dimension-là, lorsque Dieu s'adresse à cet homme, il voit en lui un vaillant héros. Ça dit dans Juges, chapitre 6, verset 15, que Gédéon, et ça c'est le regard qu'il a sur sa propre vie, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus faible à l'intérieur de tout ça. Je suis une personne qui est le plus petit, qui a le moins de capacité. » Probablement, Gédéon se voyait comme quelqu'un qui est en train de cacher, qui affronte pas. C'est pas celui qui était pour affronter Madian, qui était pour affronter. Il se voyait pas comme l'homme qui était pour amener à régler la situation dans laquelle il était. Mais pourtant, Dieu, alléluia, percevait cela en lui. Dieu voyait en lui une capacité que cet homme-là n'avait pas vue encore jusqu'à maintenant. Alléluia. Et à travers ces moments-là, probablement que Gédéon regardait à ce qu'il avait, lui, dans ses possibilités, dans ses capacités, va dire au verset 15, « Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi je vais avoir la capacité de les délivrer? » Vous savez ceci, j'aimerais nous dire que Dieu, alléluia, a toujours une solution. Qu'alors que Gédéon regarde toute la situation, probablement une certaine capacité d'avoir un regard sur tout ce qui peut prendre place, sur tout ce qui peut arriver à ce moment-là. Et à travers ça, il y a, dans ce regard-là qu'il a, il voit probablement pas une possibilité d'une solution. Il voit pas une possibilité que lui accomplisse quelque chose, puis il voit pas non plus une possibilité d'une solution. Mais j'aimerais nous dire ceci, que ce n'est pas ce que lui avait qui est important, mais plutôt le fait que ce que Dieu avait entre ses mains. Et vous savez ce que Dieu avait entre ses mains à ce moment-là? C'est Gédéon. L'important, c'est pas ce que Gédéon avait dans ses mains à lui, mais l'important, c'est que Dieu, ce que Dieu avait entre les siennes. Souvent, on regarde ce que nous, on a entre nos mains. Peut-être qu'il faudrait plutôt voir qu'est-ce que Dieu a entre ses mains. Est-ce que Dieu a ma vie entre ses mains? Est-ce que dans votre situation, est-ce que dans ce qui peut prendre place à l'intérieur de nos vies sont entre les mains de Dieu. Et à travers ce moment-là, Gédéon va dire, avec quoi je vais délivrer Israël? J'ai rien dans mes possibilités, j'ai rien dans mes capacités, j'ai rien dans mes mains. Pourtant, à travers certains textes dans la parole de Dieu, Dieu va donner à des hommes de découvrir ce qu'il avait entre leurs mains. Par exemple, il y a Moïse qui avait le bâton et que Dieu va révéler à Moïse, à travers ce bâton-là, sa puissance, va révéler, alléluia, de ce que Dieu pouvait accomplir. Mais la réalité des choses, c'est que plutôt c'était ce que Dieu avait entre ses mains pour délivrer Israël alors que les Égyptiens avaient une domination. Et ce qu'il avait entre ses mains, c'était Moïse. Dieu a demandé à ses hommes, Dieu a invité ses hommes et ses femmes dans la parole, que ça soit Moïse, que ça soit Gédéon, que ça soit Esther, que ça soit Ruth ou d'autres personnages, que ça soit les apôtres dans le Nouveau Testament. Dieu a invité ces hommes à leur donner à Dieu la possibilité qu'il les utilise comme il voulait le faire, comme il voulait l'accomplir. Et à travers ça, trop souvent, je le dis encore, nous, on regarde à nos capacités, à nos possibilités, mais ce à quoi on devrait tourner nos regards, c'est ce que Dieu a entre ses mains. Et ce qu'il a entre ses mains, alléluia, Dieu peut faire ce qu'il veut avec. Dieu avait la capacité de faire du bâton de Moïse qu'il devienne un serpent. Dieu avait la capacité, alléluia, entre ses mains, de faire de la mer Rouge un endroit de délivrance contre les Égyptiens pour le peuple de Dieu. Dieu avait la capacité de faire avec Ruth entre ses mains, de donner, alléluia, à Noémie, d'être capable de faire et d'accomplir qu'elle ait une descendance. Dieu était capable, entre ses mains, de faire de Pierre un prédicateur, alléluia, qui amènerait des milliers de personnes à donner leur vie au Seigneur. Dieu a fait de cet homme ce qui semblait être impossible à faire, alors qu'il va renier le Maître, alors qu'il va renier Jésus-Christ. Dieu, entre ses mains, va faire de la vie de cet homme, alléluia, ce que jamais personne aurait pensé ou imaginé être capable de faire. Le moment où nos vies sont entre les mains de Dieu et où on permet à Dieu de faire ce qu'il peut faire, le miracle ne vient pas de ce que tu as dans ta main, mais le miracle vient à la lumière de ce que Dieu a entre ses mains. On voudrait souvent que le miracle se produise avec ce qu'on a, nous, entre nos mains, alors que Dieu veut souvent faire le miracle et le prodige à la lumière de ce que lui a entre ses mains. Des fois, on voudrait que Dieu change notre couple, notre foyer. On voudrait que le Seigneur transforme les situations. Mais alléluia, le miracle prendra place à la lumière de ce que nos vies seront entre ses mains. Des fois, on voudrait que Dieu utilise et accomplisse. Vous savez ceci, ceux qui partent en mission, que ce soit à Paris, que ce soit ce qu'on est en train de préparer pour la mission, alléluia, en Haïti, ce que Dieu a besoin, bien sûr, c'est certaines possibilités pour accomplir le travail là-bas. Mais ce que Dieu a davantage besoin, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à livrer leur vie entre les mains de Dieu. Et à travers ça, alléluia, le Seigneur est celui qui fait le prodige et le miracle. Ces hommes qui ont quitté les gens autour d'eux, que ce soit les missionnaires de ceux qu'on va prier et jeûner durant cette semaine mardi, prenez du temps pour prier et jeûner pour ces hommes. Et ces femmes, les photos que vous avez vues, c'est des gens qui présentement, de nos missionnaires, qui passent un temps difficile dans leur santé. Que ce soit les paradis, que ce soit avec les paradis avec le cœur, Monsieur Paradis qui est avec le cœur. On pense aux mannes, dont Pasteur Don Mann qui a un cancer. Que l'on soit les Charbonneau avec la difficulté au niveau de la santé, ses yeux, les capacités qui sont là. Et les autres, on pense à Joy Johnston qui a le zona et certaines difficultés à cause d'un accident. Que l'on puisse jeûner, prier pour eux. Parce que, alléluia, Dieu a besoin de ces hommes et ces femmes entre ses mains. Gédéon, alléluia, n'avait rien dans ses possibilités. Mais l'important n'était pas dans les possibilités de ce que lui avait, mais de ce que Dieu pouvait faire avec cet homme-là. Est-ce que Dieu avait besoin de Gédéon? Dieu aurait pu détruire Madian à cet instant-là, sans Gédéon, sans qui que ce soit. Mais Dieu avait choisi d'utiliser, alléluia, entre ses mains. Et c'est ce que Dieu a fait à travers toute l'humanité. Vous savez ceci? L'une des choses, et seule chose, pas la seule, mais l'une des seules choses que Dieu a fait sans avoir besoin de l'homme et de l'être humain, ça a été la création. Mais à partir de ce moment-là, Dieu a choisi, alléluia, d'utiliser des hommes et des femmes entre ses mains. Il le fait, alléluia, avec Adam et Ève pour multiplier la terre. Il le fait avec Adam et Ève pour prendre soin du jardin. Si Dieu l'avait créé, il avait la capacité d'en prendre soin. Mais Dieu a fait d'Adam et Ève, alléluia, des hommes, un homme et une femme qui étaient pour travailler avec Dieu, alléluia, être un outil dans les mains de Dieu. Alors que cet homme-là avait perdu espoir dans les possibilités de ce qui pouvait prendre place au verset 13. Alléluia, il va même dire à la fin de ce texte-là, il va mentionner, maintenant l'Éternel nous abandonne. Il dit, si tu avais été avec nous, si tu étais avec nous, Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Et il est vrai que quelquefois, à cause des situations qui prennent place dans nos vies, on se pose de la question, Seigneur, tu es où dans tout ça? Seigneur, quelle place tu prends dans tout ça? Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas? Souvent, on pense que parce que tout va bien, Dieu est présent. Je vais vous dire que ce n'est pas les situations qui prouvent que Dieu est là ou n'est pas là. Mais à travers ce texte-là, Gédéon a perdu courage. Et j'aimerais nous dire ce matin certaines choses qui peuvent nous aider à nous fortifier et de prendre courage. Je vais mentionner quatre choses rapidement. Premièrement, se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. J'aime toujours penser que ce que Dieu a fait dans le passé, il est incapable encore de le faire aujourd'hui. Si Dieu a entrepris hier, il peut entreprendre aujourd'hui. Si Dieu a agi hier, il peut agir encore aujourd'hui. Si Dieu a délivré de l'Égypte, il peut délivrer de Madian. Connaître les vraies raisons pour lesquelles les choses arrivent. Le texte nous donne de voir que le peuple de Dieu était entre les mains de Madian parce que les gens avaient abandonné Dieu. Ils avaient commencé à adorer Baal et commencé à servir d'autres dieux. De revenir aux sources, c'est d'ailleurs ce que Dieu va faire avec Gédéon, ramener les choses, renverser les autels de Baal. On a besoin de connaître, de sonder nos cœurs. On n'a pas besoin de marcher dans la condamnation et la culpabilité, mais reconnaître si le Seigneur veut nous amener à ce qu'il y ait des choses qui soient changées à l'intérieur de nos vies. Quatrièmement, Gardez la foi dans les promesses et la parole de Dieu. Troisièmement, pardon. Gardez la foi, alléluia, dans la parole et les promesses de Dieu. Gardez la foi dans ce que Dieu a déclaré, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu a déclaré pour nos vies, de se rappeler la parole de Dieu qui est là, de la déclarer à l'intérieur de nos vies. Quatrièmement, réaliser que nous servons un Dieu qui peut toutes choses. De réaliser, alléluia, que Madian ne sera jamais aussi puissant que Dieu. Même si Madian était un homme puissant, il sera toujours moins puissant que Dieu. Se rappeler que Dieu sera toujours plus grand que tout. Que Dieu pourra faire, alléluia, sera toujours plus puissant que n'importe qui. Alléluia, que Dieu pourra accomplir ce qu'aucune personne ne sera capable de faire et d'accomplir. Parce que Dieu, alléluia, est celui qui peut le faire. Parce que Dieu est celui qui voyait dans la vie de cet homme quelqu'un qui pouvait accomplir, que Dieu pouvait seulement utiliser. Mais Dieu, à travers ça, même si Gédéon était vu de la part de Dieu comme un héros, Dieu ne permettra pas que sa gloire soit donnée à aucun homme. Mais à travers la vie, alléluia, Dieu va amener Gédéon, avant d'aller combattre Madian, de commencer à faire ce qui est la base à l'intérieur de ce peuple-là. Vous savez, avant de régler les choses extérieures, Dieu voulait que Gédéon règle des choses intérieures. Souvent, on veut que Dieu gère les choses à l'extérieur. Mais alléluia, Dieu veut quelquefois adresser ce qui est à l'intérieur de nos vies, ce qui prend place à l'intérieur de nos cœurs. On voudrait que Dieu gère l'employeur, on voudrait que Dieu entreprenne dans la situation qui nous entoure, dans la vie de notre conjoint ou notre conjointe, que Dieu le change, que Dieu le fasse. Mais à travers ça, ce que Dieu voulait, c'est agir dans l'intérieur de son propre peuple, de ses propres enfants, de des gens qui avaient élevé, alléluia, qui adoraient des idoles de Baal, qui avaient élevé des idoles et des autels à Baal. Souvent, on est préoccupé par ce qui est de l'extérieur. Mais Dieu, alléluia, va demander à Gédéon de commencer à faire quelque chose qui est à la base même. Le verset 18 du chapitre 6, ça dit, « Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, je rapporte, et que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » La première chose qui arrive dans le cœur de Gédéon, c'est d'être capable d'offrir, de donner une offrande, alléluia, d'offrir une offrande. Il dit, « Permets-moi d'aller et reste ici à terre. » La beauté de la chose, c'est comme si Dieu, dans la possibilité, dans ce qu'il est en train de faire dans la vie de Gédéon, dit, « OK, Seigneur, OK, Gédéon, je vais attendre l'ange, je vais dire, OK, je vais rester ici, je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes. » C'est comme si, à quelque part, tu dis, « Seigneur, il semble que tu as peut-être d'autres choses à faire que d'attendre. » En tout cas, c'est souvent mon impression à moi. J'ai d'autres choses à faire que d'attendre. L'attente, c'est pas toujours le fun. Mais c'était pour une bonne cause. L'ange était prêt à attendre que Gédéon revienne pour offrir le offrande. Ça fait combien de temps que Dieu attend après toi, mon frère, ma soeur? Je veux dire que Dieu attend, que Dieu est prêt à t'attendre. Mais alléluia, fais-le, prépare-le, reviens vers lui, alléluia. Offre ton offrande, offre ce que Dieu te demande à déposer à l'autel. Sois prêt à le faire, sois prêt à l'accomplir. Gédéon va dire, permets-moi, ne t'éloigne pas afin que j'apporte une offrande. Que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai. Je vais attendre. Première chose que Gédéon va faire avant que la vie des autres change, c'est lui être prêt à offrir au Seigneur. Et lui être prêt à offrir à Dieu. Alléluia. Deuxième chose qu'il va faire, il va élever un autel pour Dieu. Gédéon bâtira un autel. Verset 24. Gédéon bâtira un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Regardez-moi ici un instant. Il y a quelque chose dans le nom de ce que Gédéon va donner au nom de cet autel-là. Alors que Gédéon va donner le nom Éternel Paix, ils sont dans un des moments les plus chaotiques de leur vie, de la nation d'Israël. Le peuple encore à ce moment-là se cache encore dans des cavernes, dans des ravins, dans des choses, pour contre Madian. Ce sont encore des personnes qui sont pas encore, la situation n'est pas réglée, les choses ne sont pas réglées. Mais alléluia, dans un principe de foi, dans un principe de reconnaissance de la puissance de ce que Dieu peut faire, il est dit à ce moment-là, alléluia, que Gédéon va élever un autel, et l'autel qui va donner à ce moment-là le nom de cet autel va être l'Éternel paix. L'Éternel est notre paix. Alors qu'ils sont dans un moment d'angoisse, alors qu'ils sont dans un moment d'un certain désespoir pour le peuple, alors que Madian a une domination de puissance, il est possible d'avoir la paix de Dieu. Il est possible et on a besoin à l'intérieur de nos vies qu'il y ait des moments où on est prêt à élever un autel alors que les situations ne sont pas réglées, alors que les choses ne sont pas encore passées, alors que les situations ne sont pas encore terminées, d'élever un autel à Dieu et d'être prêt de donner un nom à cet autel dans un sens, je dirais même, prophétique. Je pense que le nom de cet autel a un nom un peu prophétique, pas un peu un nom prophétique. De ce qui était pour prendre place en Israël. La bataille n'est pas gagnée, Madian n'est pas vaincu. Mais alléluia, on élève un autel au nom de notre Dieu qui est l'Éternel, notre paix. Le Dieu de paix qui donne, qui surpasse toute intelligence. Non pas comme le monde le donne, mais alléluia, comme Dieu donne cette paix que lui seul peut donner. Et il va être un adorateur qui va louer, qui va adorer Dieu. Vous savez, dans des situations de nos vies, il est difficile quelquefois d'adorer Dieu. Il y a tellement d'affaires qui peuvent nous déranger dans le fait d'adorer Dieu. Mais David va dire, alléluia, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a besoin de peu importe ce qui peut prendre place dans nos vies, peu importe les situations qui peuvent arriver à l'intérieur de nos vies, nous devrions être des hommes et des femmes qui sont prêts à adorer Dieu. Pour ce qu'il est des gens qui adorent en esprit et en vérité, peu importe les situations compliquées autour de nous dans nos vies. Est-ce qu'on est prêt à adorer Dieu? Est-ce qu'on est prêt à venir louer le Seigneur? J'espère que ce matin on est venu, peu importe, peut-être il y a plein de raisons de s'inquiéter dans nos vies, mais peut-être que ce matin on est parti de la maison en disant, Seigneur, aujourd'hui, je suis seulement allé pour t'adorer, pour te louer, te rendre la gloire, l'honneur et la louange qui te revient, parce que cette louange-là, elle t'est due, Seigneur. Tu la mérites parce que tu es un grand roi de se lever le matin. En étant reconnaissant et en louant Dieu pour qui il est, parce que Dieu n'a pas changé. Je vais vous dire ceci dans cette histoire-là. Dieu n'a pas changé avant Madian et après Madian. Dieu était le même avant, il était le même pendant, il était le même après. Les gens avaient changé. Le peuple de Dieu avait changé. Mais Dieu avait resté le même. Nous, on change, mais Dieu reste demeure le même. Et à travers ça, nous pouvons l'adorer. Le texte dit qu'il va renverser, Dieu va lui demander de renverser les autels à la Baal. En Juges chapitre 6, le verset 25, Dieu va dire, dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Il y a toute une façon dont Dieu est en train de demander de faire à ce moment-là, à ce peuple-là, à Gédéon. C'était en même temps tout que quelque chose que Dieu demandait à Gédéon. D'ailleurs, Dieu va dire, si tu as de la crainte, Gédéon, amène quelqu'un avec toi, puis il va emmener quelqu'un nécessairement. Il n'était pas brave dans ce qu'il a fait. On ne fait pas toujours les choses avec bravo. Parce qu'on est d'accord. On ne fait pas toujours les choses avec, parce qu'on est brave. La réalité, c'est qu'on fait davantage de choses, puis on n'est pas brave de le faire. La majorité de ce que Dieu nous demande de faire, bien souvent, on n'est pas brave de le faire. La majorité, on n'est pas brave de le faire. C'est rare que je vais dire, waouh, Seigneur, c'est facile. Majoritairement, c'est un vrai défi. Majoritairement, c'est plus grand que moi. C'est plus grand que nous. Majoritairement, ça nous demande un peu plus. Ça nous demande de se pousser dans le dos un peu. Mais à travers la situation, Dieu demande, Gédéon, tu vas devoir aller renverser l'autel, qui n'est pas n'importe qui est à ton père, qui est de ta propre famille, Gédéon. Qui est de ta propre famille, Gédéon. Tu vas aller, tu vas renverser l'autel, tu vas prendre le bois de l'idole qui est là, tu vas amener un taureau qui appartient à ton père, un jeune taureau de ton père. Est-ce que ce taureau-là devait servir à être sacrifié pour Baal? Le texte ne le révèle pas, c'est possible. Mais en fait, Dieu va demander, prends le taureau, le jeune taureau de ton père, va, renverse cet autel et élève un autel qui va me donner gloire, qui va être à mon nom, qui va rendre l'honneur à qui je suis. Et à travers ça, tu vas non seulement, mais tu vas prendre le bois de cette idole-là, il n'en construira pas un autre, il n'en fera pas un autre, et on va simplement, alléluia, brûler cette idole-là. Et cette idole-là va simplement démontrer la puissance de qui je suis. Tu vas offrir les holocaustes et le bois va être brûlé sur cet autel. Et Gédéon va seulement le faire par obéissance. Il va juste le faire. Gédéon savait que sa vie était en jeu. Lorsqu'on regarde dans la parole, plein de fois Dieu a demandé des choses à des hommes et à des femmes dans la Bible qui risquaient leur vie lorsqu'ils ont fait. Qu'ils risquaient leur vie lorsqu'ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait parce que Dieu leur a demandé. Alléluia, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils savaient que Dieu leur avait demandé. Ils étaient prêts à sacrifier ce que Dieu, alléluia, avait à leur vie pour ce que Dieu leur demandait. À travers ça, on peut simplement tourner nos cœurs et de dire, Seigneur, on veut être capable de t'obéir, on veut être de ceux qui vont simplement, alléluia, le faire. Le verset 27 dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Dieu n'avait pas dit de le faire de jour. Fait que Gédéon le fait de la façon dont il se sentait le mieux de le faire, dont il se sentait le plus à l'aise de faire. Mais il le fait. Il est celui qui a marché avec obéissance. Dernière chose que je veux mentionner par rapport à ce point-là, c'est qu'il a élevé un autel qui a rendu gloire à son Dieu. Et le texte dit ceci, lorsqu'on lit dans le texte, c'est à ce moment-là que Gédéon était revêtu du Saint-Esprit. Et ça, pour moi, c'est une dimension qui est là. Le texte dit que au verset 12, ça dit ceci, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et les chameaux étaient innombrables comme le sable qui était sur le bord de la mer. » Alors, il y a toute la dimension de la puissance de Madian, mais Dieu ne laisse pas Gédéon tout seul dans la dimension de ce qu'il est. Et à ce moment-là, alléluia, dans le texte, ça donne et ça dit qu'il a été revêtu de la part de Dieu. Et le mot « revêtir » en hébreu, c'est comme de mettre un manteau sur la vie de quelqu'un. C'est comme de mettre un manteau sur une personne, qui veut dire « vêtir », « revêtir », faire ou mettre, couvrir la vie de quelqu'un. C'est comme si alors que Gédéon est celui qui a renversé l'autel, qui a élevé l'autel de Dieu, qui a fait les choses de ce que dans sa propre vie, à ce moment-là, le texte dit que Dieu là, est celui qui lui a mis un manteau de l'accomplissement à laquelle Dieu l'appelait à faire envers Madian. Vous pourrez lire cela à la maison. Lorsqu'on regarde dans cette dimension-là, on a besoin de Dieu à l'intérieur de nos vies. Nous avons besoin que Dieu soit là à l'intérieur de nos cœurs. Et ça, à ce moment, lorsqu'on est là dans cette dimension-là, il y a eu certaines clés que Dieu a données, alléluia, de réussite qu'il a données à l'intérieur de la vie de cet homme pour être capable d'amener et vaincre Madian. De vaincre Madian. Et la première, c'était celle que Dieu est avec lui. Et à travers ça, alléluia, c'est que Dieu était à ses côtés. Non seulement que Dieu est à ses côtés, mais Dieu va placer des personnes aux côtés de Gédéon. Dieu ne demande pas à faire Dieu ne demande pas à Gédéon de faire toute chose, tout ça. Il y a eu 10 hommes qui sont allés avec lui. Il s'est entouré. On a besoin dans nos vies d'être entouré. C'est dit dans le verset 6:34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna la trompette, Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut ainsi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zébulon et dans Naphtali, qui montèrent à leur rencontre. Juges chapitre 7, verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Et là, Dieu va faire un tri dans les gens qui l'entourent. Et je pense que ce texte-là nous apprend une vérité importante, de l'importance des gens qui nous entourent à l'intérieur de nos vies. Le texte dit que ce n'était pas dans le nombre que dans la victoire était pour se gagner. Et vous savez, dans plein d'histoires de la Bible, ce n'était pas dans le nombre qui a fait que le peuple de Dieu a gagné. Ce n'était pas dans le nombre de personnes, c'est-à-dire Dieu n'a pas choisi 1000 disciples pensant que plus il serait nombreux quand il va aller rejoindre son Père, que 1000 serait mieux que 12 pour gagner le monde. La puissance de Dieu n'est pas dans les nombres. La puissance de Dieu est dans ce qu'il est. Et la puissance de Dieu, alléluia, est dans les gens que Dieu veut qu'ils soient autour de nous. Et on a besoin de comprendre. J'aimerais vous encourager, jeune homme, jeune fille de cette assemblée, les adolescents de cette assemblée. L'important n'est pas le nombre d'amis et la popularité que vous pouvez sembler avoir autour de vous, de gens qui vous reconnaissent dans votre école, mais d'avoir les bonnes personnes qui vous entourent, alléluia, et qui vous donnent de grandir et d'avancer. Ces 300 personnes-là étaient pour amener le peuple à gagner la bataille. Et dans le tri dans lequel Dieu va faire, il est dit, alléluia, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Dieu dit, je vais enlever, je vais trier, je vais faire la chose en fonction de trier. Des fois, on a besoin de se poser la question des gens qui nous entourent. Peut-être on a donné une autorité ou des possibilités à des gens qui nous entourent autour de nous, qui nous tirent davantage loin du Seigneur que près de Dieu. Ces gens-là sont des gens à amener au Seigneur, des gens à gagner, mais pas des gens qui vont nous influencer dans la bataille. Pas des gens, alléluia, qui vont nous influencer à gagner la bataille. C'est plutôt des gens qui vont bénéficier de la victoire. Je vais vous dire que les milliers de personnes qui vont être là sur les 32 000, il va en rester 300. Les autres milliers de personnes dont le tri vont bénéficier de la victoire. Mais Dieu va faire qu'ils ne seront pas aux côtés de Gédéon pour gagner la bataille. Il y a des gens autour de nous qui sont là pour bénéficier de la victoire. Mais alléluia, que l'on doit réaliser qu'ils ne sont pas là, que Dieu n'a pas mis là à nos côtés pour gagner la bataille. J'espère qu'on comprend la pensée que je suis en train d'amener ce matin. Il y a des fois des personnes qui sont là autour de nous, qui nous amènent loin de Dieu. Et si c'est le cas, on a besoin de s'arrêter devant le Seigneur et de se poser la question. Dans ce texte, alléluia, le Seigneur, il va celui qui va le faire. Dieu va amener trois règles importantes pour faire le tri. La première chose, c'est la dimension d'orgueil. C'est dit dans Juges chapitre 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Il y avait 32 000. C'est dit, « Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » La première chose que Dieu fait au niveau du tri, c'est d'enlever toute possibilité d'orgueil et de gloire. Vous savez, cela, c'est quelque chose qui va se retrouver dans toute la parole de Dieu. Par exemple, Dieu va dire qu'il résiste aux orgueilleux. Prochainement, probablement, peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais il y a quelque chose qui est dans mon cœur depuis un nombre de mois sur le fait de l'orgueil. Et que des fois, l'orgueil, c'est pas toujours ce qu'on pense, mais qui, des fois, sans s'en apercevoir, ça prend place à l'intérieur de nos cœurs et ça nous donne de perdre certaines choses dans lesquelles Dieu veut faire et accomplir à l'intérieur de nos vies. Et dans ce texte-là, Dieu dit à Gédéon, on va faire un tri, on va enlever des gens afin que personne ne puisse s'enfler d'orgueil. Ne suivez pas quelqu'un qui marche dans l'orgueil. Ne suivez pas quelqu'un, Dieu va lui résister. Ne suivez pas quelqu'un qui marche dans l'orgueil. Soyons capables d'être de ceux qui marchent dans l'humilité. Alléluia. L'humilité précède la gloire. et c'était ce qui était pour prendre place. Mais pas la gloire des avant tout de l'homme, mais la gloire de Dieu. Ce de pourquoi on doit être préoccupé, ce n'est pas de notre gloire, ce n'est pas de quel va être le retour sur nos vies, ce n'est pas de se faire un nom, ce n'est pas d'une popularité, mais que Dieu soit glorifié, que l'Éternel soit exalté à l'intérieur de nos vies, de nos situations. Quelqu'un dit ceci un jour, « Dieu réprime tout particulièrement l'orgueil qui voudrait faire jouer à l'homme un rôle dans l'œuvre qui n'appartient qu'à lui. » Si j'ai besoin de Dieu, ça veut dire que la victoire, alléluia, dépend de Dieu. Et si elle dépend de Dieu, alléluia, je dois reconnaître qu'elle vient de lui. Qu'elle vient de ce que lui peut accomplir, de ce que lui peut faire à l'intérieur de nos vies. Deuxième chose, la peur, la crainte. Dans ce texte-là, ça dit au verset 3, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et celui qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. » Ce texte dit, « 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. » Il y avait 32 000 avec tout le tri que Dieu est en train de faire. Il en reste maintenant 10 000. La peur. Dans le texte qui est là, la peur, c'est pas quelqu'un qui vit une certaine peur. Mais dans le texte, c'est une source de tremblement, là. C'est plus que juste une dimension d'une crainte de quelque chose, là. C'est la peur qui prend place. Alors qu'on regarde ça, la peur ici, alléluia, n'est pas dans un sens de peur de ne pas être bon, par exemple. C'est pas la peur de pas moi avoir les possibilités pour. C'est la peur n'est pas basée sur le fait de ce que Gédéon avait auparavant. Je suis le plus petit d'entre mes frères, je suis le moins capable, je suis le plus petit de la famille. Mais c'est pas de cette peur-là qui fait référence. Ici, c'est la peur de perdre devant un ennemi. C'est la peur de perdre dans la dimension de ce que Dieu leur donnerait pas victoire. C'est à ça que ça fait référence. Et quand je lis ça, il y a un texte qui remonte à ma pensée facilement, c'est les espions devant la terre promise. C'est cette même peur-là que l'on retrouve ici. Des gens qui sont partis, qui sont allés là, mais qui pour eux autres, ils ont la peur de ce que Dieu leur donne pas la victoire. Alors Dieu dit à ce moment-là, il y a 68,75% des gens qui vont partir, qui vont être là. Ça veut dire qu'il y a 68,75 qui ont cru qu'à cause de leur peur, ils ne devaient pas aller. Parce que c'est eux qui le savaient. Parce que c'est les gens qui décidaient. Il y a eu 68,75% des gens qui se sont dit, « Moi, là, je suis mieux de m'en aller parce que je suis pas sûr que Dieu va le faire, que Dieu va donner la victoire. Je suis pas sûr que Dieu va entreprendre. » Je dois faire attention de ne pas faire partie de ce groupe-là. Je fais partie des 300, alors qu'ils vont être là. Et ça dit dans Deutéronome, chapitre 20, verset 8, ça dit, les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Et là, le texte dit, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Et là, le texte dit, la raison pour laquelle ne devrait pas être entouré de gens qui ont cette peur-là, ça dit qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas contre lui. Comme lui. Alors, ici, c'était en train de prendre place dans la dimension de Gédéon. Et si Dieu est en train de dire, ce qui va prendre place, c'est que les gens, les 22 000 personnes qui sont là, qui ont peur, est-ce qu'ils vont pas influencer les autres personnes qui n'ont pas peur? Il y a de fortes possibilités, en tout cas, parce qu'il y en a 22 000 sur 10 000. Le nombre est plus grand de gens qui vivent dans la peur que Dieu leur donne pas victoire, que de gens qui ont la foi que Dieu va entreprendre puis que Dieu va leur livrer Madian entre leurs mains. Les gens qui ont peur vont profiter de la bénédiction, mais ils ne feront pas partie de ceux qui vont amener la victoire. C'est important ce que je suis en train de dire. On doit être capable de faire face à des peurs qu'il y a dans nos vies. Et d'être capable à vaincre. Et souvent, la plus grande bataille, c'est de vaincre cette peur-là. parce que c'est ce qui va nous empêcher à saisir ou être participants dans la bataille, dans la victoire à laquelle Dieu nous demande. On a besoin, alléluia, à la troisième, c'est de ceux qui vont aller, et Dieu va dire, à ce moment-là, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, faites descendre vers l'eau. Et là, il y a tout le triage qui se fait. Et je ne veux pas prendre longtemps sur ce texte, mais vous pourrez encore le lire à la maison. Mais la dimension dont Dieu est en train de faire, il y a une dimension de ceux qui sont prêts à aller à la bataille, qui veulent aller. Lorsqu'il y a dans la dimension de s'abreuver, il y a un groupe de personnes qui ont été là, qui ont pris le temps. Alors, c'était ceux qui l'appellent. Alors que les autres sont là, boivent avec, OK, on boit, puis go, on s'en va à la bataille. On n'a pas de temps à perdre. On est là pour aller livrer bataille. On n'est pas là pour perdre notre temps. On n'est pas là pour jouir de ce que de l'eau qui est là, puis de s'abreuver, puis de vivre du bon temps ici autour de cette source-là. On est là pour aller à la bataille. Alors, on boit, on est là, on se rassasie rapidement, puis on est prêt à aller à la bataille. Je pense que le troisième groupe de personnes, c'est Dieu veut des gens qui vont être prêts à ne pas perdre leur temps. La Bible dit de racheter le temps. Il va y avoir 9700 personnes qui vont quitter sur les 10 000 personnes. Il va y avoir seulement que 300 qui vont être prêtes à le faire et être prêtes à aller. 300 qui ne laisseront pas la part les vaincre. 300 qui ne marcheront pas dans l'orgueil. 300 qui ne marcheront pas, ou plutôt qui sont prêts à aller. Maintenant, on ne veut pas perdre notre temps. On veut servir, on veut accomplir, on veut aller battre Madian. Il y a quelque chose, je l'ai dit il y a quelques temps, il y a deux semaines, je crois. J'ai dit que souvent, dans la parole de Dieu, il est dit que des gens l'ont fait, sont levés. Dieu a demandé, par exemple, à Abraham d'offrir Isaac, s'est levé de bon matin et il est allé. Pas de temps, ils sont à perdre. On va et on accomplit avec fidélité ce que Dieu nous donne de faire. Dieu est celui qui veut l'accomplir. Mais est-ce qu'on est en train d'en retirer une propre gloire pour nos vies? Est-ce que la peur est en train de saisir nos cœurs? J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Est-ce qu'on est en train de perdre de vue ce que Dieu nous demande de faire? Et il y avait une pensée qui était là. Bien sûr, c'est bien de pouvoir profiter de ce qu'il y a dans notre monde et autour de nous. Mais cela ne devrait pas être un entrave à ce que Dieu nous demande de faire. Bien sûr, on doit être capable de prendre conscience de besoins, les vacances et de tout ce qu'on a besoin de. Mais en même temps, on doit être de ceux qui sont prêts à servir Dieu, à accomplir ce que Dieu nous demande de faire, de ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et à travers nos vies, alléluia, à travers les situations, on a besoin de se tourner vers le Seigneur. Dieu a une façon pour chaque situation. Dans la parole, il nous est dit, alléluia, qu'à ce moment-là, chapitre 27, verset 21, ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Et là, bien sûr, c'est Madian qui est en train de fuir. Eux sont là, ils ont le bois, la torche, ils ont la cruche. Ça dit, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit tourner l'épée des gens de Madian, de l'armée de Madian, les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bertsita et Teretsa, jusqu'au nord bon, de lui. Et là, Dieu a donné la victoire à cette bataille-là, à l'intérieur de leur vie. Dieu a donné la victoire parce que des hommes. Et vous savez ceci, quand je regarde le texte, on va jouer le dernier chant qui est sur votre liste ce matin. On ne va pas chanter. Quand on regarde ce texte-là, il y a quelque chose qui me frappe, qui m'a frappé dernièrement. Je réalise que Dieu avait, quand je lis le texte, je réalise que Dieu avait davantage besoin de Gédéon avant d'aller combattre contre Madian, mais avait davantage besoin de Gédéon pour régler la propre situation de son propre peuple. Bien sûr, il va jouer un rôle important. Je vais commencer à jouer doucement la guitare. Et à travers ça, Dieu est celui qui va faire. Parce que Dieu voyait et Dieu savait. Dieu voyait cet homme Gédéon et Dieu savait qu'il pouvait être un héros dans cette situation-là. Alléluia! Dieu voyait que Gédéon était capable de renverser les autels à Baal, que Gédéon était capable d'obéir et d'accomplir ce que Dieu lui était pour lui demander de faire. Dieu voyait ces 300 hommes sur les 32 000 qui livraient bataille contre Madian. Et Dieu savait que ce peuple-là, alléluia, que ces 300 hommes pouvaient gagner la bataille. Dieu savait que l'Éternel, qu'il était pour être celui qui leur donnerait la victoire. Mon frère, ma sœur, ce matin, je veux dire que quand Dieu te regarde, il te voit. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu vis. Il sait, alléluia, ce que tu es en train de passer à l'intérieur de ta vie. Il connaît tes possibilités, tes capacités, tes dons. Il connaît tes frayeurs, tes douleurs, tes peines. Il connaît ce que tu es en train de vivre à l'intérieur de ta vie. Peut-être le découragement, peut-être la fatigue, peut-être une impossibilité. Je veux dire que Dieu te voit. Mais lorsque Dieu te voit, il ne fait pas seulement te voir. Dieu sait quelque chose à ton égard. Ce que toi-même, tu ne sais pas. Ce que toi-même, tu n'imagines même pas. Dieu savait, alléluia, ce que Gédéon pouvait être. Ne plus être celui, alléluia, qui battait du froment pour le cacher de Madian. Mais d'aller, alléluia, et devant Madian, de livrer bataille devant cet homme. Que maintenant, Dieu ferait de lui non plus un homme qui se cacherait ou de quelqu'un qui se cacherait de Madian, mais de quelqu'un, alléluia, qui était pour livrer bataille à Madian. Dieu voyait dans la vie, alléluia, de cette nation-là, une nation, un peuple, qui se cachait, qui était sous une domination. Mais Dieu voyait, alléluia, un peuple qui pourrait être victorieux, qui pourrait être vainqueur. Mais Dieu savait que la chose arriverait. Vous savez, quand Gédéon a élevé l'autel, le texte ne le dit pas. Est-ce que Gédéon, à ce moment-là, avait la paix? Je ne le sais pas. Peut-être que oui. Peut-être que divinement, le Seigneur lui avait donné la paix. Peut-être que miraculeusement, il y avait une paix qui était entrée dans son cœur, que Dieu lui donnait, que les situations, mais que la paix était là. Mais je pense que de façon au niveau du peuple, c'était prophétique. Cet autel déclarait l'avenir d'Israël. Mais alléluia, cette déclaration était une chose que Dieu savait que c'était pour arriver. Dieu savait que c'était pour arriver. Est-ce qu'on peut pencher, fermer nos yeux, nos têtes, fermer nos yeux un instant? Peut-être que tu es dans ce lieu aujourd'hui. Frère, ma soeur, je ne ferai pas un appel nécessairement en avant ce matin. Peut-être que tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu vis de la crainte, de la peur. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que tu te sens toute seule aujourd'hui. Je veux dire que Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Dieu sait qui tu es. Dieu te voit, toi. Sait qui tu es, toi. Peut-être que les gens ne le voient pas. Peut-être que les gens ne le savent pas. Mais Dieu le voit et le sait. Et ce matin, alléluia, je veux te dire que Dieu veut faire une œuvre dans ta vie et dans ton cœur. Que Dieu veut faire une œuvre dans qui tu es. Que Dieu veut s'adresser à toi ce matin comme il s'est adressé à Gédéon. Peut-être que tu es en train de te cacher, de battre le froment comme Gédéon était en train de faire. Peut-être que tu es en train de te cacher de certaines choses, mais devant Dieu, tu peux te cacher de Madian, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu aujourd'hui. Et ce matin, alléluia, le Seigneur veut juste te dire combien il te voit, comment il te connaît, comment il sait qui tu es. Ce qu'il peut faire avec ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans ce lieu, tu vis de la crainte, de la peur. Peut-être que tu vis un certain désespoir. Si à travers la parole, ce matin, il y a quelque chose qui parlait à ton cœur par rapport à ta vie, de façon claire, que tu aimerais qu'on puisse prier pour toi, J'aimerais juste que tu lèves ta main là où tu es. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, merci. Merci, oui. Merci. On peut baisser la main. Oui, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Terminer dans un instant. Je vais prendre un moment de prier pour vous aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait, mais... je vais le faire. Combien est-ce qu'il y en a qui se sentent seuls aujourd'hui dans ce lieu? Vivez une solitude intérieure. Soyez pas gênés. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Seigneur, ce matin, on veut juste prier pour chaque personne qui a levé la main. D'abord et avant tout, je veux prier pour les gens qui vivent une solitude dans leur cœur. Seigneur, quel moment ça a dû être pour Gédéon de juste battre le froment seul, là, pour cacher de Madian, Seigneur. Être là dans l'impression que personne ne te voit. Que, Seigneur, tu accomplis des choses et que personne ne te voit. Dans les personnes qui ont levé la main ce matin, il y a quelqu'un qui a cette impression-là. Que personne ne te voit. Que tu fais des choses, mais que personne n'y prend garde. Tu as même l'impression que même si tu ne serais pas là ou tu serais là, ça ne changerait pas grand-chose. Le Seigneur veut juste te dire qu'il te voit aujourd'hui. Qu'il a vu ce que tu as accompli, qu'il a vu ce que tu as fait. Que le trésor ne viendra pas des hommes, mais de ce que lui va bénir ta vie. De ce que lui va prendre soin de toi. De ce que lui te donnera la grâce et la force pour tenir bon. Le Seigneur veut te dire de garder courage aujourd'hui. Le Seigneur veut te dire, alléluia, qu'il est là avec toi. Qu'il y a des gens autour de toi qui bénéficieront de la victoire parce que toi, tu auras accompli. Seigneur, je te prie pour ces gens. Viens fortifier dans leurs âmes, fortifier dans leur cœur. Seigneur, je prie que à cet instant, tu viennes et tu les fortifies à l'intérieur de leur esprit et de leur cœur. Fais-le maintenant. Seigneur, que le sentiment, que la solitude peut les quitter maintenant. Que Seigneur, ta présence les envahisse dans leur vie. Que la joie, Seigneur, prenne place dans leur cœur. Que ta paix prenne place dans leur vie, Seigneur. Que toute chose, Seigneur, que la crainte puisse quitter. Seigneur, que quoi que ce soit pour lequel les gens ont reçu dans leur cœur aujourd'hui, fais une œuvre dans leur vie maintenant. Fais une œuvre dans leur cœur maintenant, Seigneur. Et que Dieu enlève toute peur, toute crainte. Seigneur, donne-nous de réaliser les temps dans lesquels nous sommes dans nos propres vies. Dieu, donne-nous l'audace. Crée dans nos cœurs l'audace que Gédéon a eue. Seigneur, d'aller de nous de renverser les autels qui ne sont pas de toi dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de vouloir te plaire, de marcher dans tes voies. Seigneur, de réaliser ce qui est à l'intérieur, d'adresser ce qu'il y a dans nos vies, Seigneur. Que ça soit la crainte, la peur, que ça soit le manque de pardon, l'amertume, la colère, que ça soit un péché, Seigneur, que ça soit qu'on s'est éloigné de toi. Dieu, de nous d'adresser dans nos vies et de vouloir ce que tu veux faire et accomplir. Seigneur, viens et fais une œuvre dans nos vies maintenant. Et je prie, Dieu, que tu fasses de nous, alléluia, et Gédéon, que tu fasses de nous, Seigneur, ces 300 hommes qui sont allés à la bataille et à la guerre parce qu'on a besoin de toi, Jésus. Seigneur, on veut te dire combien on dépend de toi. Seigneur, on n'aura aucune gloire de qui on est. Seigneur, parce que sans toi, on est perdu. Parce que sans toi, Seigneur, on ne peut accomplir que des choses humaines, qui restera des résultats humains. Seigneur, dans nos couples, on a besoin de ta grâce, on a besoin de ton soutien, on a besoin de ton aide dans nos familles, Seigneur, dans cette église. Dieu, sans toi dans cette église, on n'est qu'un organisme, Seigneur, qui peut faire du bien, qui peut accomplir les choses, mais ta présence, fais de nous ton église, Seigneur, fais de nous ton peuple, fais de nous tes enfants, oh Dieu, pour t'adorer, pour te rendre la gloire, l'honneur et la louange. Fais-le en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on va faire, on va chanter ce chant une fois ensemble ce matin, qu'on puisse le chanter de tout notre cœur. On va terminer après ça par la prière. Chantez-le avec foi et avec cœur ce matin devant Dieu. Alléluia.